Par un enfant, tel est le titre du nouveau livre de Fabrice Hadjadj, paru aux éditions MAM à Toulouse. Pour deux conférences, le philosophe et dramaturge, auteur de nombreux ouvrages, est de passage dans les studios de Radio Présence. Bonjour Fabrice Hadjadj.
Bonjour.
Vous êtes marié et père de 9 enfants. Pour vous, Fabrice Hadjadj, qu'a représenté l'arrivée de chacun de vos enfants dans votre famille ?
À un événement radical, on pourrait dire même un renouvellement à chaque fois du monde. Hein. Quand je dis qu'un enfant ne prend pas place dans un monde déjà constitué, mais renouvelle le monde et nous constitue à chaque fois de manière nouvelle aussi père, parce que moi j'ai été, on est père quand on a son premier enfant et c'est lui qui nous donne de devenir père, donc c'est une métamorphose, qui nous surprend d'une certaine façon, mais aussi à chaque enfant, la paternité nous est redonnée. Et même, dès le premier enfant, j'ai eu l'impression de donner tout mon amour. Et il a réussi à dégager en moi des gisements d'amour insoupçonnés. Mais ce qui est fou, c'est qu'à chaque nouvel enfant, on découvre encore des ressources d'aimer. Et je peux dire, par exemple, ma petite dernière, la 9e, Abigail, j'en suis amoureux fou, hein. Et je passe des heures sur la table allongée, je passe des heures à faire coucou, à me cacher, à courir à quatre pattes derrière elle. C'est un don à chaque fois. C'est-à-dire quand on dit accueillir la vie, c'est aussi que soi-même on est transformé, on est renouvelé. Alors bien sûr, c'est des responsabilités, bien sûr, c'est des angoisses, bien sûr que c'est un travail, un labeur, des fatigues à l'évidence, mais aussi le sentiment d'être plus pleinement vivant. Je dis toujours que dans la vie, la joie et l'angoisse finalement grandissent ensemble, mais c'est le signe qu'on est beaucoup plus vivant.
Et à ce propos, vous écrivez « Il faut un certain esprit d'enfance abandonné au Père éternel pour oser une vie nouvelle dans notre vieux monde ». Que voulez-vous dire par là ?
C'est-à-dire qu'on pourrait croire que pour devenir père, il faudrait acquérir des compétences d'hommes extrêmement sérieux.
Lire tous les livres,
avoir des méthodes comme aujourd'hui. Alors, et on confond justement le père et l'expert.
Bon, c'est, le savoir-faire et le savoir-être aussi.
Oui, on pourrait dire ça. Alors que, au fond, la chose paradoxale, c'est que on n'est pas père avant qu'il y ait l'enfant. Il n'y a pas une compétence antérieure. Donc l'enfant est là et c'est lui qui nous requiert d'une certaine façon. Et c'est lui qui invente au fur et à mesure dans la rencontre finalement notre paternité. Et surtout, l'enfant nous fait entrer dans un esprit d'enfance, c'est-à-dire un esprit de réceptivité à la vie qui à son tour nous donne encore, de pouvoir aussi donner la vie, de faire confiance. C'est assez étonnant, mais quand on voit un petit enfant, c'est vrai que son innocence ou son ignorance fait qu'il a une sorte d'abandon complet. Et je pense qu'on peut pas donner la vie avec une simple logique du calcul. Je peux tout anticiper, je peux être sûr que mon enfant ira bien, que j'aurai toutes les compétences, que j'aurai toujours les ressources financières pour. Vous voyez, souvent c'est comme ça qu'on comprend.
Nous y viendrons.
Et alors qu'en fait, il y a une logique qui est autre, qui est celle d'une confiance en la vie. Or, justement, ça relève de l'esprit d'enfance, cette confiance en la vie.
C'est ça. Faire un enfant, avoir un bébé, engendrer, procréer, transmettre ou donner la vie. Vous employez différentes expressions pour évoquer l'arrivée d'un petit homme. En quoi ces locutions sont-elles impropres pour vous ?
Faire un enfant, justement, c'est pas un faire, c'est pas une fabrication. Avoir un enfant, c'est pas une possession non plus. Procréer, c'est un terme directement théologique, qui est très fort, mais qui est peut-être renvoie trop facilement à l'acte de co-création avec Dieu. Il faut jamais oublier que, même si on dit procréation médicalement assistée, vous voyez, mais il y a un terme théologique, on parle de création, c'est pas... Le terme biblique, c'est engendrer. Je pense que il y a quelque chose qui est très mystérieux, parce que l'enfant vient de nous, mais vient de nous comme ce qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on a, c'est jamais propre parce qu'il n'y a jamais d'appropriation justement dans l'engendrement. C'est-à-dire, mon fils est mon fils et en même temps, c'est une autre personne qui est plus grand, qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que tout enfant, à la limite, peut fuguer comme le Christ et dire bah, « il faut que je sois aux affaires de mon père ». Tu es mon père, c'est sûr, mais il y a aussi le père. Voilà, chaque père n'est pas absolument le père. Et c'est une histoire nouvelle qui s'enclenche, une destinée qui va nous échapper et qui est en avant du temps. Notre enfant, il appartient à la génération suivante et donc à un temps qui n'est déjà plus le nôtre. Et c'est pour cela que ça nous échappe. Vous voyez, le père ne donne pas ce qu'il a compris, le père ou la mère ne donne pas ce qu'ils ont compris de la vie comme un expert, mais ils donnent toute la vie, même dans ce qu'il y a d'incompréhensible. C'est pour ça que ça leur échappe toujours.
Et c'est pour ça que vous dites que chaque engendrement est un commencement, une recréation.
Oui, c'est moi qui le dis, mais c'est une pensée qu'une femme admirable, qui d'ailleurs n'a pas eu d'enfant, mais un peu comme une religieuse, vous voyez, soutient par sa pensée la fécondité des autres, c'est Hannah Arendt, ouais. la grande philosophe juive, philosophe politique, a insisté sur ce mystère de la naissance qu'elle a vu à travers la nativité du Christ. Un jour, elle a entendu le Messie de Handel. Et en écoutant le Messie de Handel, elle a entendu « un enfant nous est né, un fils nous a été donné », cette grande parole de Noël. Et elle s'est rendue compte que justement, la naissance était un commencement. L'enfant n'est pas un simple rouage qui rentrerait dans un système. Et elle a même affirmé que à partir de la naissance comme commencement, la naissance est aussi ce qui, d'une certaine façon, résiste à toutes les logiques totalitaires. À chaque homme, il y a un nouveau commencement du monde, la possibilité d'un renouvellement. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Moïse était dès le départ condamné à périr dans les eaux. Et voilà qu'il va s'appeler sauvé des eaux. Et voilà qu'il va être le libérateur de ce peuple qui était censé tenir dans l'esclavage. Et on aurait pu dire, maintenant cet esclavage fait qu'on ne devrait pas avoir d'enfants, les conditions ne sont pas réunies pour. Et voilà que non, c'est l'enfant qui ouvre des possibilités nouvelles et inédites.
Et qui donne ce commencement. Alors à ceux qui vous reprochent, Fabrice Hadjadj, d'être inconscient d'avoir une famille si nombreuse, vous vous défendez dans votre ouvrage avec humour. Que répondez-vous aux écologistes soucieux de l'empreinte carbone qui recommandent, au même titre que d'étendre son linge, d'avoir un enfant en moins?
Oui, c'était une étude qui avait paru en disant que voilà, un acte écologique, c'était avoir un enfant en moins. Déjà, rien que l'expression montre le caractère absolument non scientifique d'une telle étude. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant en moins? Est-ce que ça veut dire en avoir un et le supprimer? Est-ce que ça veut dire en projeter un et finalement se résoudre à ne pas l'avoir? Alors, bon, je tiens à préciser que j'ai 9 enfants, mais je ne suis pas un défenseur, un promoteur de la famille nombreuse. Pour moi, c'est pas un programme. La sainte famille avec un seul enfant, hein, bon. Et c'est toujours l'histoire d'un couple, d'un homme et d'une femme, avec leur trajectoire singulière. Il peut leur arriver de ne pas pouvoir avoir d'enfant, de ne pas en avoir par des circonstances très particulières. Je ne me pose jamais en juge de cette chose-là. Et je déteste dans certains milieux cathos, plus ou moins tradis, vous voyez, cette sorte de concurrence qu'il y a. J'ai même des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, « bon, vous savez, moi, je n'en ai que 7 ouais, ». Ouais, des paroles aussi atroces que ça et aussi absurdes. Donc, je ne suis pas en train de dire « il faut absolument avoir beaucoup d'enfants ». Ce n'est pas du tout ça. C'est toujours un don, c'est toujours un mystère. Et c'est toujours au-delà de nos capacités, dès le premier, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai pu en avoir davantage. Alors, par rapport à la question écologique, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. D'abord, on ne peut pas considérer une personne comme un objet ou comme un acte. C'est-à-dire que quand on dit, l'empreinte carbone la plus forte, c'est s'il y a un nouvel enfant, c'est plus qu'un vol transatlantique. Oui, parce qu'on suppose que l'enfant est celui qui va prendre des vols transatlantiques, et on compare un élément, un geste écologique, avec le sujet qui va poser tous les gestes.
Comme un consommateur.
Anti-écologique comme un consommateur. Et on voit bien que c'est déloyal comme méthode et c'est même pas rationnel. Donc le vrai problème, c'est d'abord un problème de mode de vie. Et la chose que j'affirme, c'est que plus on a d'enfants, plus le mode de vie, de toute façon, doit être sobre. Moi, avec tous mes enfants, je peux pas me payer des vacances aux Bahamas. C'est inversement.
Vous simplifiez.
Voilà. Et inversement, souvent, le célibataire, compense le manque de vie qu'il y a à l'intérieur de son espace domestique, par de la consommation. Et c'est plutôt celui-là qui va avoir un mode de vie de gaspillage. Et on voit bien qu'à mesure qu'il y a baisse de la fécondité, il y a aussi augmentation de la consommation par individu. Donc, vous voyez, la corrélation, voilà, est difficile à penser. Deuxièmement, il y a des choses aberrantes, deux choses à mon avis aberrantes. L'idée que il ne faudrait plus avoir d'enfants au nom des générations futures. Alors, vous voyez le paradoxe. Donc, on ne fait pas de génération future pour les générations futures. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et le troisième point, c'est de dire, bien sûr qu'il y a il peut y avoir un danger de surpopulation. Démographiquement, on sait que la bombe démographique qu'on a beaucoup craint, on pense qu'il peut y avoir au contraire une implosion démographique au bout d'un certain temps, puisque au terme de la transition démographique, il y a une baisse de la natalité. Mais surtout, pour nous, Européens, c'est l'inverse que nous vivons. Nous sommes en situation de dénatalité. Donc, est-ce que nous voulons que l'Allemagne devienne une partie de la Turquie? Est-ce que nous voulons que la France devienne une partie de l'Afrique? C'est ça l'avenir démographique. Hein. Il faut bien comprendre que cela. Moi, je suis français. Je suis pas dans une zone où globalement, où je dois penser simplement à la globalité du monde et je dois porter la fécondité de ma propre patrie, si j'ose dire. Donc, vous voyez, les choses se posent pas de la même façon. Et enfin, le point fondamental, c'est que certains disent, vous me rendez compte, il va y avoir des épidémies, il peut y avoir des famines, il peut y avoir des choses. Oui, mais j'ai toujours eu des enfants avec un sentiment aigu du tragique de l'existence. Et donc la question, c'est de dire, est-ce que je dois moi-même supprimer des embryons, supprimer des naissances parce que j'ai peur de la mort demain, c'est-à-dire c'est moi qui dois mettre à mort ou c'est moi qui dois me stériliser au nom de la mort qui pourrait venir d'un drame extérieur. Non, voilà, il y aura des drames de toute façon et cette vie est dramatique. Et quand on est chrétien, on le sait et on sait que la plus belle vie qu'on puisse avoir pour un enfant, c'est qu'il devienne charpentier et non pas ingénieur, il va pas faire une grande école et qu'il meure à 33 ans dans d'atroces souffrances, mais en ayant donner sa vie. Donc voilà, ça c'est une perspective qui est étonnante, mais qui en même temps, ce qu'a accepté, ce à quoi a consenti la plus célèbre des mères juives.
Bon. Oui. Pour terminer, Fabrice Adjadj, je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes né dans une famille de confession juive, mais vous avez été athée et anarchiste durant toute votre adolescence. Vous avez été baptisé à l'âge de 26 ans à l'abbaye de Solesmes et vous me disiez en préparant cet entretien que vous êtes oblat de cette abbaye. Quel lien faites-vous entre un monde sans enfants et un monde sans Dieu? Ce sera ma dernière question.
Vous savez, la grande parole du Christ, j'insiste beaucoup sur cela, parce que le christianisme le Christ a pu apparaître comme l'éternel voleur des énergies, c'est cette grande phrase de Rimbaud, ou comme quelqu'un qui stérilise, ou un opium, Non, c'est la fécondité qui est derrière. Alors, fécondité qui n'est pas forcément celle de multiplier les personnes, la vie, mais pour des vies qui existent aussi, de les porter. C'est pour ça qu'il y a des religieux. Je rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants au sens naturel du terme, mais qui portent toujours une fécondité au sens spirituel. On a besoin de religieux, on a besoin de prêtres pour aussi faire renaître. Et donc, la grande parole du Christ, c'est « La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit ». Et le signe qu'on a confiance en Dieu comme donateur de la vie, c'est qu'on sache aussi la donner à notre tour.
Porter du fruit. Merci beaucoup Fabrice Adjadj. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Encore un enfant, aux éditions MAM.